Chapitre 7. Comment une poule se fait ruser. Les jours se passaient, et M. Taleva montrait, du moins aux yeux du médecin, des symptômes de plus en plus positifs d'un retour graduel à son état normal. La paralysie perdait peu à peu de sa ténacité, et l'intelligence s'en dégageait péniblement, comme une créature vivante se frayerait un chemin sous une avalanche de neige continuant à glisser, et refermant parfois le passage qui vient de s'ouvrir. Le temps aurait paru se traîner lentement pour ceux qui veillaient près du lit, s'ils n'avaient eu à redouter que la perte d'espérance incertaine et éloignée. Mais ils étaient menacés d'un autre malheur qui s'approchait et leur faisait trouver que les jours succédaient trop rapidement aux nuits. Pendant que M. Taleva redevenait lentement lui-même, le moment d'un changement décisif dans leur existence s'avançait à grands pas. Les experts avaient fait leur travail, comme le fait tout respectable armurier qui prépare consciencieusement le mousquet qui doit briser la vie de son semblable. Des assignations, des placards de chancellerie, des décrets de vente sont les boulets ramés et les bombes légales qui ne peuvent jamais atteindre un but unique, mais doivent, en tombant, disperser leurs éclats autour d'eux. Nos vies sont tellement liées entre elles qu'il est absolument impossible que les fautes des uns ne retombent pas sur les autres. Même l'injustice fait ses victimes, et nous ne pouvons concevoir aucune punition qui ne s'étende en ondulations de souffrance non méritées bien au-delà de son but. Au commencement de la seconde semaine de janvier, on afficha par décret de la chancellerie les placards de vente du matériel de ferme et autres approvisionnements de M. Taleva, vente qui devait être suivie de celle du moulin et des terres, à un moment déterminé, au Lion d'Or. Le meunier lui-même, ne se doutant pas du laps de temps écoulé, s'imaginait être toujours au commencement de ses malheurs, et qu'on pourrait encore trouver des expédients. Et souvent, dans ses heures de lucidité, il parlait, d'une manière faible et sans suite, de plans qui le tireraient d'embarras quand il serait rétabli. Sa femme et ses enfants espéraient toujours trouver quelques moyens qui permettraient à M. Taleva de ne pas quitter sa demeure pour commencer une vie entièrement nouvelle, car l'oncle Dean avait été amené à s'intéresser à ce sujet. Il reconnaissait que ce ne serait pas une mauvaise spéculation pour Guest et compagnie que d'acheter le moulin de Dorlcote et d'en augmenter le commerce qui était bon en y joignant la force de la vapeur. Dans ce cas, M. Taleva pourrait y être conservé comme gérant. Cependant, M. Dean ne voulait rien dire de positif à cet égard. Le fait que Wakeham possédait l'hypothèque sur les terres pouvait mettre en tête à celui-ci d'acquérir toute la propriété et de l'emporter ainsi sur la prudente maison Guest et compagnie qui ne faisait pas les affaires par motif de sentiment. M. Dean fut obligé de dire à Mme Taleva quelque chose de cela quand il se rendit au moulin pour inspecter les livres avec M. Glegg, car elle lui avait fait observer que si Guest et compagnie voulaient seulement y penser, ce serait une bonne affaire pour eux, car le père et le grand-père de M. Taleva avait dirigé le moulin de Dorlcote longtemps avant que le moulin à huile de cette grande maison de commerce leur fût seulement venu à l'idée. M. Dean, dans sa réponse, mit en doute que ce fut précisément cette circonstance qui dut déterminer leurs valeurs respectives comme placement. Quant à l'oncle Glegg, la chose était tout à fait hors de sa portée. L'excellent homme sentait une pitié sincère pour la famille Taleva, mais son argent était tout engagé dans de bonnes hypothèques où il ne pouvait courir aucun risque, et ce serait injuste, à l'égard de ses propres parents, de le déplacer. Toutefois, il avait résolu de donner à M. Taleva quelques-uns de ses gilets de flanelle auxquels il avait renoncé pour des vêtements plus moelleux, et d'acheter de temps en temps une livre de thé pour Mme Taleva. La visite qu'il se proposait de lui faire pour le lui apporter et voir son plaisir, quand il lui affirmerait que c'était du meilleur thé noir, réjouissant d'avance sa généreuse bienveillance. Néanmoins, il était évident que M. Dean était bien disposé pour la famille Taleva. Un jour, il avait amené Lucy, qui passait à la maison les vacances de Noël, et la blonde tête s'était appuyée contre les joues brunes de Maggie avec force, larmes et baisers. Une douce jeune fille peut avoir une large influence sur le cœur d'un père respectable, associé d'une grande maison de commerce. Et peut-être que l'intérêt de Lucy pour ses pauvres cousins aida l'oncle Dean à trouver plus promptement pour Tom une place momentanée dans l'entrepôt et à lui faciliter les moyens de prendre dans la soirée des leçons d'arithmétique et de tenue de livre. Cet événement aurait pu réjouir le jeune homme et relever un peu ses espérances si, dans le même temps, ne fût survenu ce qu'il avait si fort redouté, la déclaration de la liquidation de son père. Les créanciers étaient appelés à recevoir moins que ce qui leur était dû, ce qui, dans l'esprit de Tom, peu accoutumé aux termes techniques, était la même chose qu'une banqueroute. On dirait que M. Taleva avait non seulement perdu sa fortune, mais avait fait faillite, mot qui, dans ses idées, exprimait la plus grande honte. Car lorsque les réclamations pour frais d'avocat eurent été satisfaites, il restait encore le compte de l'ami Gore, lequel, avec le déficit de la banque aussi bien que d'autres dettes, réduisit l'actif à une disproportion notable avec le passif. Pas plus de 10 ou 12 shillings par livre, prédisait M. Dean d'un ton décidé en serrant les livres. Et ces mots tombaient sur Tom comme un liquide brûlant, laissant une douleur cuisante. Il avait besoin de quelque chose qui pût lui donner un peu de courage dans le pénible changement de sa position. Après l'ennui des heures d'étude sur le tapis moelleux de M. Stelling et les brillants rêves de son imagination pendant le dernier semestre de pension, il se trouvait transporté au milieu de sacs, de pots et des réelles vociférations d'hommes déchargeant à ses côtés de lourds fardeaux avec le bruit du tonnerre. Son premier pas pour faire son chemin dans le monde était une occupation qui l'exposait au froid, à la poussière et au bruit, et nécessitait qu'il repartît le soir avant son thé pour prendre à St. Ogg's une leçon d'un vieux commis manchot dans une chambre sentant le mauvais tabac. Le visage rose et blanc de Tom avait bien perdu de ses couleurs quand venait le moment de rentrer à la maison pour s'asseoir affamé devant son souper. Il ne faut pas s'étonner qu'il eût un peu d'humeur lorsque sa mère ou Maggie lui adressait la parole. Mais pendant tout ce temps, Madame Taleva ruminait un plan qui lui permettrait à elle, et à elle seule, de prévenir le résultat le plus à redouter, en empêchant Wakeham d'acquérir le moulin. Imaginez une poule inquiète et craintive, par quelque anomalie de mauvais augure, se mettre à réfléchir et à chercher des combinaisons pour empêcher le cuisinier Hodge de lui tordre le cou ou de l'envoyer au marché, elle et ses poussins. Le résultat ne pourra être que beaucoup de caquetage et d'agitation. Madame Taleva, voyant que tout allait mal, avait commencé à se dire qu'elle avait été trop passive dans sa vie et que si elle avait appliqué son esprit aux affaires et pris de temps en temps une forte résolution, il n'en eût été que mieux pour elle et sa famille. Personne, paraît-il, n'avait pensé à parler à Wakeham à l'occasion de cette affaire du moulin. Et cependant, Madame Taleva se dit que c'eût été la méthode la plus courte pour arriver au but désiré. Il aurait été inutile, naturellement, que M. Taleva y allât, même s'il eût pu et voulu le faire. Car il avait paru en justice contre Wakeham, et en avait constamment dit du mal pendant ces 10 dernières années. Wakeham devait probablement lui conserver de la rancune. Maintenant que Madame Taleva était arrivée à conclure que son mari avait eu très grand tort de la mettre dans cet embarras, elle était disposée à penser qu'il pouvait aussi avoir une fausse opinion à l'égard de Wakeham. Il est vrai que Wakeham avait mis les huissiers dans la maison et avait fait vendre leur mobilier, mais elle supposait qu'il l'avait fait par égard pour celui qui avait prêté de l'argent à M. Taleva. Car un procureur a à faire plaisir à plus d'une personne, et il n'était pas naturel qu'il fît passer avant tout autre M. Taleva, qui lui avait été opposé en justice. Le procureur pouvait être un homme raisonnable, pourquoi pas. Il avait épousé une Miss Clint, et dans le temps où Mme Taleva avait appris ce mariage, l'été où elle portait son spencer de soie bleue, et n'avait aucune idée de M. Taleva, elle ne connaissait rien de mal sur le compte de Wakeham. Et envers elle, qu'il savait avoir été une Miss Dodson, il était certainement hors de doute qu'il pût avoir autre chose que de la bonne volonté. Quand il lui serait une fois bien démontré que, pour sa part, elle n'avait jamais désiré de procès, et était, en vérité, disposée pour le moment à entrer dans les idées de M. Wakeham sur tous les sujets, plutôt que dans celles de son mari. Au fait, si le procureur voyait une honorable dame comme elle lui donner de bonnes paroles, pourquoi ne l'écouterait-il pas? Car elle poserait clairement les faits devant lui, ce qui sans doute n'avait encore jamais eu lieu. Et il n'irait point acquérir le moulin si ça devait la vexer, elle, une femme innocente, qui probablement avait dansé avec lui dans sa jeunesse chez le chevalier Darley. À ses grands bals, elle avait souvent eu pour danseurs des jeunes gens dont elle avait oublié les noms. Madame Tallevar renfermait dans son sein tous ses raisonnements, car lorsqu'elle en avait dit quelques mots à M. Dean et à M. Glegg, il lui avait répondu « Non, non, non !» et « Baste, baste !» et « Laissez Wakeham tranquille !» du ton d'homme qui ne paraissait pas vouloir prêter une sincère attention à une exposition plus détaillée de son projet. Et encore moins osait-elle faire mention de ce plan à Tom et à Maggie, car les enfants étaient toujours tellement contre tout ce que leur mère disait. Et Tom, observait-elle, était tout aussi monté contre Wakeham que l'était son père. Cette concentration inaccoutumée de pensée donna naturellement à Madame Tallevar une puissance d'action jusqu'alors inconnue. Et un jour ou deux avant la vente, qui devait se faire au Lion d'Or, alors qu'il n'y avait plus de temps à perdre, elle mit son plan à exécution par un stratagème. Elle possédait une grande provision de marinade et de conserve, que M. Hindmarch, l'épicier, achèterait certainement si elle pouvait faire ce marché elle-même. Donc elle irait ce matin-là à St. Ogg's avec Tom. Et quand il lui soutint qu'elle pouvait laisser les marinades tranquilles pour le moment, il n'aimait pas qu'on la vît en ville en ce moment, elle parut si blessée de la conduite de son fils, qui la contrariait au sujet de ses marinades faites d'après les recettes de famille, héritées de sa propre grand-mère, laquelle était morte quand sa mère à elle était petite fille, qu'il céda et qu'ils allèrent ensemble jusqu'à ce qu'elle entrât dans la rue danoise où M. Hindmarch détaillait ses épiceries non loin de l'étude de M. Wakeham. Ce dernier n'était pas encore arrivé à son étude. Madame Tallevar fut priée de s'asseoir près du feu dans son cabinet particulier pour l'attendre. Elle n'eut pas longtemps à rester seule avant que le ponctuel procureur, un homme assez grand, ayant un nez aquilin et une abondante chevelure gris de fer, entra en fronçant le sourcil et en examinant d'un coup d'œil cette femme forte et blonde qui se leva en lui faisant une révérence respectueuse. « Vous n'avez point encore vu M. Wakeham, et vous êtes peut-être curieux de savoir si c'était un coquin aussi éminent et un ennemi aussi artificieux et déclaré de l'honnête humanité en général et de M. Tallevar en particulier, que nous pourrions le croire d'après le portrait qui en existe dans l'esprit du meunier. Il est sûr que l'irascible Tallevar était homme à interpréter tout coup tiré au hasard et qu'il effleurait comme un attentat contre sa propre vie. Il était sujet à rencontrer dans ce monde compliqué des embarras qui, vu de sa propre infaillibilité, exigeaient pour les expliquer la supposition d'une intervention active et diabolique. Il est possible aussi que le procureur n'eût pas plus de tort envers lui qu'une machine ingénieuse exécutant son travail régulièrement n'est coupable envers l'homme imprudent qui, s'approchant de trop près, est saisi par quelque volant ou autre roue et se trouve soudain broyé d'une manière inattendue. Mais il est réellement impossible de décider cette question par un simple coup d'œil jeté sur sa personne. Les lignes et les ombres des traits humains sont, comme d'autres systèmes, peu faciles à déchiffrer sans une clé. D'après une vue a priori du nez aquilin de Wakeham, nez qui offensait Tallevar, il ne s'y trouvait pas plus de signes de scélératesse que dans la forme de son haut col de chemise, quoique celui-ci, de même que son nez, pût en paraître un indice une fois la culpabilité prouvée. « Madame Tallevar, je crois, » dit M. Wakeham. « Oui, monsieur, naguère Miss Dodson. Faites-moi le plaisir de vous asseoir. Vous avez quelque chose à me dire ?»« Eh bien, oui, monsieur, » dit Madame Tallevar, commençant à se sentir alarmée de son propre courage, maintenant qu'elle était réellement en présence de cet homme redoutable, et à la pensée qu'elle n'avait point encore décidé en elle-même comment elle commencerait. M. Wakeham mit les mains dans les poches de son gilet et la regarda en silence. « J'espère, monsieur, » commença-t-elle enfin, « j'espère, monsieur, que vous ne pensez pas que je vous porte aucun mauvais vouloir parce que mon mari a perdu son procès, que vous avez mis les huissiers dans la maison et qu'on a vendu le linge. Oh, mon Dieu, car je n'ai pas été élevé à cela. Je suis sûr que vous vous rappelez mon père, monsieur, car c'était un ami intime du chevalier Darley, et nous allions toujours à ses bals. Les Miss Dodson, personne ne pouvait être plus regardé, et c'était juste, car nous étions quatre. Vous savez très bien que Madame Clegg et Madame Dean sont mes sœurs. Et quant à aller en justice, à perdre de l'argent et voir chez soi des ventes forcées avant que l'on soit mort, je n'ai jamais rien entendu de pareil avant d'être marié, et pendant longtemps après encore. Je ne dois pas être responsable de ma mauvaise chance de m'être marié pour entrer dans une famille où les manières d'agir sont toutes différentes de ce qui se fait dans la mienne. Et quant à être entraîné à dire du mal de vous, comme d'autres gens le font, monsieur, c'est ce que je n'ai jamais fait, et personne ne peut m'en accuser. » Madame Taleva hocha la tête et regarda l'ourlet de son mouchoir de poche. « Je ne doute nullement de ce que vous dites, Madame Taleva, » dit Wakem, avec une froide politesse. « Mais vous avez quelques questions à m'adresser. »« Mais oui, monsieur, voici ce que je me suis dit à moi-même. Je me suis dit que vous aviez sans doute raison envers mon mari, qui n'a pas été lui-même pendant ces 2 mois. Je ne le défends en aucune manière, pour s'être tellement échauffé au sujet de l'irrigation. Ce n'est pas qu'il n'y ait des hommes plus mauvais, car il n'a jamais fait avec intention tort à personne d'un shilling ou d'un penny. Et pour ce qui regarde sa fureur de procès, que pouvais-je y faire? Et il a été frappé comme de mort quand il a reçu la lettre qui lui apprenait que vous étiez possesseur du terrain. Mais je ne puis supposer que vous ne vouliez pas vous conduire en gentilhomme. « Que veut dire tout cela, Madame Taleva ?» dit M. Wakem assez sèchement. « Qu'est-ce que vous voulez me demander ?»« Voici, monsieur. Si vous voulez être assez bon, » dit Madame Taleva en tressaillant un peu, et parlant plus précipitamment, « si vous voulez être assez bon pour ne pas acheter le moulin et les terres ne seraient pas grand-chose. Seulement mon mari serait comme fou si vous les aviez. » Une nouvelle idée traversa comme une ombre le visage de Wakem, qui reprit « Qui vous a dit que j'eusse l'intention de les acheter ?»« Mais, monsieur, ce n'est point de mon invention, et je n'y aurais jamais songé si mon mari, lui qui connaissait quelque chose des affaires, n'avait pas toujours eu l'habitude de dire que les gens de la loi n'ont pas besoin de rien acheter, soit des terres, soit des maisons, car ils ont toujours quelque autre moyen de mettre la main dessus. Et je pense que vous pouvez faire ainsi, monsieur. Je n'ai jamais dit que vous fussiez homme à faire le contraire de cela. » « Ah bien, qui est-ce qui a dit cela ?» dit Wakem, ouvrant son pupitre et y remuant différentes choses avec l'accompagnement d'un sifflement presque imperceptible. « Mais, monsieur, ce sont M. Clegg et M. Dean qui ont toute la direction. Et M. Dean pense que Guest et compagnie pourraient acheter le moulin et laisser M. Taleva y travailler pour eux, si vous n'enchérissez pas pour en élever le prix. Et ce serait une si heureuse affaire pour mon mari que de rester où il est, s'il pouvait y trouver son entretien. Car le moulin appartenait à son père avant lui, et c'est son grand-père qui l'a construit. Je dis cela, quoique je ne fusse pas contente du bruit qu'il faisait au commencement de mon mariage, car il n'y avait point de moulin dans notre famille, chez les Dodson, et si j'avais su que les moulins eussent tant à faire avec la loi, ce n'est pas moi qui aurais été la première Dodson à épouser un meunier. Mais je suis allé en aveugle, voilà. Irrigation et tout le reste. Comment ? Guest et compagnie garderaient pour eux le moulin, je suppose, et payeraient des gages à votre mari ? Oh, vraiment, monsieur, c'est dur d'y penser, dit la pauvre Madame Taleva, une petite larme se faisant jour à l'idée que son mari recevrait des gages. Mais cela ressemblerait mieux au passé, de rester au moulin au lieu d'aller quelque autre part. Et si vous vouliez seulement y penser, si vous en veniez à acheter le moulin, mon mari pourrait être frappé plus fortement qu'il ne l'a déjà été, et ne jamais se remettre, comme nous pouvons l'espérer maintenant. Bien, mais si j'achetais le moulin, et que je permis à votre mari de le gérer pour moi de la même manière, qu'en pensez-vous ? Dit M. Wakem. Oh, monsieur, je doute qu'on pût jamais l'amener à cela, pas même si le moulin lui-même s'arrêtait pour le supplier de le faire. Car votre nom est comme du poison pour lui, plus qu'il ne l'a jamais été. Il croit que de tout temps vous avez été sa ruine, dès le premier moment que vous avez mis la loi contre lui, à l'occasion de la route à travers la prairie, il y a 8 ans de cela, et il a toujours continué, quoique je lui ai constamment dit qu'il avait tort. C'est une tête d'âne, un fou mal embouché, s'écria M. Wakem en s'oubliant. Oh, vraiment, monsieur, dit Mme Tulliver, effrayée d'un résultat si différent de celui qu'elle avait rêvé. Je ne voudrais pas vous contrarier. Il est assez probable qu'il a changé d'opinion pendant sa maladie. Il a oublié beaucoup de choses dont il avait coutume de parler. Et vous ne voudriez pas avoir à vous reprocher sa mort s'il venait à mourir. D'ailleurs, on dit que ça porterait malheur si le moulin de Dorlcote changeait de propriétaire, comme cela eut lieu pour l'ancien, que les eaux pourraient se perdre, et qu'alors, non que je veuille vous souhaiter aucune mauvaise chance, monsieur, car j'ai oublié de vous dire que je me rappelle votre mariage comme si c'était hier. Madame Wakem était une Miss Clint, je sais, et mon fils, dont on peut dire qu'il n'y en a nulle part un plus agréable, plus beau et plus droit, a été en pension avec le vôtre. Monsieur Wakem se leva, ouvrit la porte et appela un de ses clercs. Vous m'excuserez de vous interrompre, Madame Tulliver, j'ai une affaire dont il faut que je m'occupe, et je crois que nous n'avons plus rien à dire. Mais si vous vouliez vous souvenir de tout, monsieur, dit Madame Tulliver en se levant, et ne pas vous mettre contre moi et mes enfants. Je ne nie pas que Monsieur Tulliver ait été dans son tort. Il en est assez puni, et il y a des hommes pires, malgré que ce qui arrive sans raison à d'autres gens lui soit bienvenu par sa faute. Il n'a fait de mal à personne qu'à lui et à sa famille, ce qui n'en est que plus triste. Pour moi, je vais, je viens. Je regarde tous les jours mes armoires vides et pense à la place qu'occupaient toutes mes affaires. « Oui, oui, j'y penserai, » dit M. Wakem à la hâte, en regardant du côté de la porte. « Et je vous prierai de ne pas dire que je suis venu vous parler, car mon fils serait très fâché que je me sois humilié ainsi, et j'ai bien assez de chagrin sans être encore grondé par mes enfants. » La voix de la pauvre Mme Tulliver tremblait un peu, et elle ne put faire aucune réponse au bonjour du procureur, mais fit une révérence et s'éloigna en silence. « Quel jour doit-on vendre le moulin de Dorlcote ? Où est le placard ? » dit M. Wakem à son clerc quand ils furent seuls. « Vendredi prochain, vendredi à 6 heures. Oh, courez vite chez Winship, le commissaire priseur, et voyez s'il est chez lui. J'ai à lui parler. Priez-le de venir. » Quoique M. Wakem, en entrant dans son étude, n'eût aucune intention d'acheter le moulin de Dorlcote, son dessein était maintenant arrêté. Madame Tulliver lui avait suggéré différents motifs engageants que son coup d'œil rapide avait saisis. C'était un de ces âmes qui peuvent être prompts sans témérité, parce que leurs actions ont un but déterminé et qu'ils n'ont pas besoin de concilier des motifs contradictoires. Supposer que Wakem nourrissait contre Tulliver la même haine que celui-ci lui portait serait supposer qu'un brochet et un gardon peuvent se considérer d'un point de vue semblable. Le gardon certainement aborde la manière dont le brochet pourvoit à sa nourriture, et le brochet probablement ne pense au gardon indigné que comme à un très bon mets. Ce n'est que lorsque le gardon le pique au passage que le brochet ressent contre lui une forte animosité. Si Tulliver avait jamais nui sérieusement au procureur, Wakem n'aurait point manqué de le distinguer comme l'objet spécial de sa vengeance. Mais lorsque, les jours de marché, M. Tulliver traitait à la taverne Wakem de coquin, les clients du procureur n'étaient point pour cela disposés à lui retirer leurs affaires. Et si, lorsque Wakem lui-même se trouvait présent, quelques marchands de bestiaux, stimulés par l'occasion et l'eau-de-vie, dirigeaient contre lui quelque attaque en faisant allusion à des testaments de vieilles dames, il gardait un parfait sang-froid, sachant très bien que la majorité des hommes de poids qui se trouvaient là était complètement satisfait de ce que Wakem était Wakem, c'est-à-dire un homme qui savait toujours sur quelle pierre poser le pied pour traverser les endroits les plus boueux du métier. Un homme qui avait fait une grande fortune, qui avait une belle maison entourée d'arbres à Troughton, et la plus belle provision de vin d'Oporto connue aux environs de St. Ogg's, devait naturellement se sentir au-dessus de l'opinion publique. Et je ne suis pas sûr que l'honnête M. Tulliver, avec sa manière d'envisager la loi comme un combat de coq, n'eût, dans des circonstances contraires, trouvé une grande opportunité à cette vérité que Wakem était Wakem. Puisque j'ai appris, de personnes versées dans l'histoire, que la société n'est pas disposée à examiner de trop près la conduite des grands conquérants quand leur victoire est en sa faveur. Tulliver, donc, n'était point un obstacle pour Wakem. Au contraire, C'était un pauvre diable que le procureur avait vaincu plusieurs fois. Un individu au caractère bouillant qui vous offrait toujours prise ou contre lui. La conscience de Wakeham n'était point mal à l'aise vis-à-vis du meunier. Pourquoi aurait-il haï ce plaignant malheureux, ce taureau furieux et pitoyable, enlacé dans les mailles d'un filet? Toutefois, parmi les nombreux défauts auxquels la nature humaine est sujette, les moralistes n'ont jamais compté celui de trop aimer les gens qui nous insultent constamment. Les hommes qui réussissent prennent une petite vengeance de temps à autre, comme ils prennent une distraction quand elle se trouve aisément sur leur route et ne vient point à la traverse de leurs affaires. Ces petites vengeances sans colère entrent pour beaucoup dans la vie. Elles font parcourir, en les infligeant, tous les degrés du plaisir, soit que l'on force un homme à abandonner sa place, soit que l'on noircisse son caractère par des discours non prémédités. Bien plus, voir quelques-uns de ceux qui ne nous ont fait que des offenses insignifiantes, humiliés sans aucun effort spécial de notre part, peut avoir une influence calmante et flatteuse. Il nous semble alors que quelque puissance débonnaire de ce monde a entrepris pour nous la tâche de punir, puisqu'en réalité, par une agréable coïncidence des choses, nous voyons que nos ennemis paraissent ne point prospérer. Wakeham n'était pas sans cet esprit de vengeance contre le meunier peu complimenteur. Et maintenant que Madame Taleva lui avait suggéré cette idée, cette même idée se présenta à lui comme l'occasion de causer à M. Taleva la plus cruelle mortification. Il se donnerait ainsi un plaisir qui ne venait pas seulement d'une méchanceté révoltante, mais où il trouvait l'agrément de son approbation personnelle. Voir un ennemi humilié donne un certain contentement. Mais c'est peu comparé à la satisfaction orgueilleuse de le voir humilié par votre conduite en apparence bénévole en ayant l'air de faire une concession en sa faveur. C'est une espèce de vengeance qui prend le masque de la vertu, et Wakeham tenait à en conserver l'apparence. Il avait eu une fois le plaisir de faire entrer un de ses anciens ennemis dans une des maisons de charité de St. Ogg's, pour la reconstruction de laquelle celui-ci avait jadis donné une forte somme. Et maintenant, voici une occasion d'en obliger un autre, en faisant son propre serviteur. De tels événements complètent la satisfaction intime, en faisant savourer délicieusement les raffinements d'une réussite auxquels ne songe jamais l'esprit de vengeance à vue courte et irréfléchie qui s'abat sur sa proie pour s'assouvir brutalement. Taleva, avec sa langue grossière devenue polie par sentiment de dépendance, ferait un meilleur serviteur qu'aucun individu sollicitant une place. Il était connu pour un homme d'une honnêteté orgueilleuse, et Wakeham était trop habile pour ne pas croire à l'existence de l'honnêteté. Il était porté à observer les individus et à ne pas les juger d'après les maximes. Personne ne savait mieux que lui que tous les hommes ne lui ressemblaient pas. De plus, il comptait surveiller de très près cette affaire de terre et de moulin, car il aimait ses occupations de pratique rurale. Mais il avait de bonnes raisons pour acheter le moulin de Dorlcote, en dehors de toute bienveillante vengeance contre le meunier. Il fallait que ce fût, en réalité, un excellent placement, puisque Guest et compagnie avaient l'intention d'enchérir. M. Guest et M. Wakeham étaient sur le pied de bons convives, et le procureur trouvait agréable de l'emporter sur un propriétaire de vaisseau et d'usine qui avait le verbe un peu trop haut dans les affaires de la ville, aussi bien que dans ses discours de table. Car Wakeham n'était pas seulement homme d'affaires, il était aussi considéré comme ayant quelque importance dans les cercles supérieurs de St. Ogg's. Sa conversation était amusante au dessert. Il s'occupait un peu d'agriculture, en amateur, et avait certainement été excellent mari et père. À l'église, lorsqu'il y allait, il s'asseyait au pied du beau monument mural érigé à la mémoire de sa femme. La plupart des hommes dans sa position se seraient remariés, mais on disait qu'il avait plus de tendresse pour son fils contrefait que le plus grand nombre des hommes n'en ont souvent pour leurs descendants de la plus belle tournure. Ce n'est pas que M. Wakeham n'eût point d'autre fils que Philip, mais, ayant avec eux une parenté plus douteuse, il se contentait de les établir dans la vie sur un pied convenable au-dessous de sa position. Là se trouvait à la vérité le motif influent pour acheter le moulin de Dorlcote. Pendant que Mme Taleva parlait, l'esprit prompt du procureur avait compris que cet achat pourrait très bien, quelques années plus tard, fournir une position éminemment convenable pour un certain protégé qu'il avait l'intention de pousser dans le monde. Telles étaient les conditions d'esprit sur lesquelles Madame Taleva avait compté agir et n'avait point réussi. Fait que peut éclaircir la remarque d'un grand philosophe, disant que les pêcheurs à la ligne échouent souvent, quoiqu'en préparant de leur mieux une amorce, faute d'une connaissance convenable de la subjectivité des poissons.